Nous poursuivons cette bibliothèque de l'éducation au sein de la médiathèque de l'UFM de l'Académie de Lyon. Nous sommes en compagnie de Philippe Mérieux et nous continuons de parler de son dernier ouvrage « Lettre à un jeune professeur ». Avec nous, Marie-Claude Pofilet. Marie-Claude Pofilet, vous êtes responsable du service des personnels à l'Institut universitaire de formation des maîtres.
Oui, c'est ça.
Je crois que vous avez une question, peut-être plusieurs, à poser à Philippe Mérieux.
Oui, alors effectivement, vous décrivez ce qui se passe en France. Je me suis demandé ce qu'il en était dans les pays de l'Union européenne. Alors, pouvez-vous me dire si dans ces pays, le poids de l'administration paraît aussi lourd aux yeux des enseignants qu'à ceux d'ici ? Et si l'on rencontre aussi les défenseurs des savoirs disciplinaires d'un côté et les pédagogues de l'autre.
Merci Marie-Claude, je reconnais bien la difficulté de la question. Je voudrais dire d'abord, Muriel, à quel point je suis content que Marie-Claude participe à cette émission, parce que au cours de mon mandat à l'IUFM, j'ai toujours considéré que l'ensemble des personnels, les formateurs, mais aussi les personnels administratifs, les personnels de service, évidemment les personnels de bibliothèque qui nous accueillent ici, était partie prenante de la même mission d'éducation dans le service public. Et que la séparation entre administratif d'un côté et pédagogue de l'autre était à bien des égards artificielle. Alors Marie-Claude, je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Peut-être sur la deuxième partie, je pense que la France est un pays particulier à cet égard. Un historien britannique très féru des questions de l'histoire de France a écrit une longue histoire des passions françaises, c'est Théodore Zeldin. Et il explique que la France est le pays à la fois le plus cartésien, mais le plus passionnel qu'il soit, et que c'est un pays où l'on se bagarre sur des idées en permanence, et en particulier sur l'école. Et c'est vrai que la question de l'école et l'opposition entre ce qu'on appellerait les pédagogues d'un côté et les disciplinaires absolus de l'autre est assez spécifique de la France. Parce que si on prend l'Allemagne, si on prend l'Angleterre, si on prend même l'Espagne et l'Italie, on ne trouve pas beaucoup cela. Alors, on le trouve un peu en Suisse, qui est un pays dans lequel il y a aussi des débats pédagogiques très vifs, mais on le trouve assez peu ailleurs. Alors, c'est lié au fait qu'en France, l'école est constitutivement imbriquée à notre histoire. La France s'est construite par son école. Donc, l'école est forcément un lieu sur lequel on investit beaucoup. Jules Ferry, mais bien avant, Condorcet, enfin, on fait de l'école le cœur de la construction de l'unité nationale. Ce n'est pas le cas d'aucun autre pays européen. Donc la France entretient avec son école un rapport très, très fort. Et comme il est très fort, il soulève des passions. Et puis, la France a cette caractéristique d'avoir deux systèmes, un système primaire et un système secondaire, qui ont été très largement fondés sur des principes différents. J'évoque cette phrase de Jules Ferry qu'on attribue à Jules Ferry, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit, on devient instituteur parce qu'on aime les enfants, professeur de mathématiques parce qu'on aime les mathématiques. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est dans l'imaginaire collectif. L'enseignement primaire a été très largement structuré autour de l'accompagnement de l'enfant avec des pédagogues très importants, en particulier une pédagogue qui est bien connue de tous les gens de l'UFM de Lyon, Pauline Kergomar, puisqu'il y a une salle qui porte son nom ici, qui a créé l'école maternelle en France sous l'impulsion de Jules Ferry. Et puis au-delà de cela, il y a eu dans l'école primaire française un nombre important de gens qui se sont passionnés pour faire vivre une école primaire toujours centrée sur l'éducatif et articulant éducation et instruction. Et puis, l'organisation de l'enseignement secondaire, depuis Napoléon, il s'est fait à partir de l'université. Donc, il s'est fait à partir des disciplines universitaires. Et au milieu de tout ça, le collège n'a jamais trouvé complètement son identité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais su vraiment si le collège était dans le prolongement de l'école primaire, c'est-à-dire devait être centré sur la transversalité, sur la polyvalence, comme on dit, du professeur, ou si c'était un petit lycée qui devait déjà préparer au lycée. On a structurellement inscrit dans le système éducatif et avec un abcès de fixation qui est le collège, la tension entre une conception plus globale de l'éducation de l'enfant et une conception plus disciplinaire où les disciplines sont séparées d'une manière plus forte les unes des autres. Alors pour ma part, je trouve que cette opposition est absurde, dans la mesure où on ne peut pas enseigner une discipline sans en même temps dire quelque chose sur la conception que l'on a de l'enfant, de l'homme. Moi, je dis toujours, il y a une manière d'enseigner les maths qui enseigne aussi à faire la guerre, et une manière d'enseigner les maths qui enseigne aussi à faire la paix. Il y a une manière d'enseigner l'histoire et qui est respectueuse des cultures tout en ne tombant pas dans le relativisme. Il y a une manière d'enseigner l'histoire qui brutalise et qui humilie un certain nombre d'élèves. Donc je crois qu'il y a toujours de l'éducation dans l'instruction. Et de la même manière, je crois qu'on ne peut pas éduquer sans instruire. C'est-à-dire qu'éduquer, c'est apprendre, faire apprendre des choses concrètes, précises et exigeantes. Donc je trouve que ce débat entre les pédagogues et les disciplinaires est un peu faux, un peu, mais c'est une passion française. C'est quasiment le vieux débat entre Voltaire et Rousseau. Hein. Et chacun sait bien qu'en France, Rousseau, il n'est pas le mieux placé. Hein. À Paris, comme vous le savez, il y a un grand boulevard Voltaire, il n'y a même pas un impasse Jean-Jacques Rousseau. Alors, sur la question maintenant de les autres pays européens, la technostructure éducation nationale, bien sûr qu'elle est moins lourde. Mais c'est aussi pour la raison que j'indiquais. C'est parce qu'en France, l'école et l'État ont un rapport très particulier. L'État est très fort dans l'école et c'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose. Je pense même aujourd'hui, à titre personnel, que l'État n'est pas assez fort par rapport à l'école. C'est-à-dire qu'il n'impose pas suffisamment un cahier des charges précis aux établissements sur l'accueil des parents, sur le suivi des élèves, sur l'organisation des études. Je pense que l'État devrait être plus exigeant à l'égard des écoles. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser les écoles avoir des projets. Mais aujourd'hui, nous sommes jacobins sur les méthodes et girondins sur les finalités. C'est-à-dire, au fond, on est libre. On laisse les établissements à peu près libres de leur politique éducative dès lors qu'ils respectent le nombre d'heures de maths par élève. Bon. Et par niveau. On pourrait parfaitement imaginer d'inverser le processus, de dire on est beaucoup plus exigeant sur les finalités de l'école, on est beaucoup plus exigeant sur un certain nombre de points qu'on considère comme les obligations de l'école à l'égard de la nation, des familles, des enfants. En revanche, si vous voulez mettre à certains élèves plutôt 3 heures de maths et à d'autres plutôt 6 en fonction des besoins qu'ils ont, c'est un projet que vous allez réfléchir et que vous allez élaborer. On pourrait parfaitement être plus rigoureux sur les objectifs et plus souple sur les modalités. C'est ce que nous appelons dans notre jargon à l'éducation nationale le projet. Moi, je crois au projet. Mais le projet, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la mobilisation des acteurs avec les moyens qu'ils ont pour faire le mieux possible pour atteindre les objectifs de la nation. Voilà. Mais on me fait signe qu'il faut s'arrêter. Donc, Muriel, je m'arrête.
Nous allons effectivement faire une pause au cours de cette bibliothèque de l'éducation. Merci, Philippe Mérieux.